Drôle d'enfant ce soir dans le rendez-vous sur France Culture, il sera question de Rougir, de Marguerite Duras, de lapins, de gants, de photographies, d'illustrations et même de Sa Majesté les Mouches. Avec Florence Petrovitch, double exposition au Musée des Beaux-Arts de Chambéry et dans un ouvrage qui rassemble ses œuvres récentes au programme Enfants au corps paysage, animaux blessés, pour une figuration des états transitoires. Lucille Comeau.
Portrait d'une artiste qui travaille à travers différents supports, le dessin, le lavis, la céramique, la vidéo, une certaine idée de la fragilité.
19h30, place nette à Xavier Delaporte avec sa chronique Place de la Toile. Et puis 19h35, plateau édition avec Thierry Magnier qui publie Ma mère ne m'a jamais donné la main. Deuxième roman pour cet éditeur qui a repensé tous les formats de la littérature jeunesse. Lucille.
Retour sur le parcours d'un éditeur qui refuse de, je cite, prendre les enfants pour des cons et qui expérimente une littérature jeunesse intelligente sous différentes formes.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture version supplément week-end pour Benoît Lagan que l'on ouvre sur le son du jour de Zoé Sfez.
On remercie les milliers de gens qui nous ont envoyé des soutiens, des dons qu'on n'arrive pas aujourd'hui à chiffrer pour le moment. Tous ceux qui se sont abonnés, en particulier Arnold Schwarzenegger, qui à lui seul vaut 10 abonnés. Et on remercie aussi Clounet, qui peut s'abonner, parce que comme ça, toutes les femmes du journal auront son adresse.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Oui, il est tout frais, celui que l'on entendait là, c'était Gérard Briard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, qui a donné une conférence de presse dans les locaux du journal Libération aujourd'hui pour évoquer le premier numéro de Charlie Hebdo depuis l'attaque de la semaine dernière qui doit paraître demain. Vous l'avez entendu, il était question de remerciements, mais aussi de continuer à sourire.
Ce numéro de Charlie Hebdo, vous lui consacrez votre dossier du jour. On sait qu'il sera donc tiré à 3 millions d'exemplaires et qu'il sera traduit en 5 langues, arabe, anglais, espagnol, italien et turc. Et l'on connaît déjà sa une.
Oui, elle a été dévoilée hier soir. Elle montre donc Mahomet, tremblant, larme à l'œil, qui tient, comme des millions de personnes l'ont fait ces derniers jours, une pancarte « Je suis Charlie ». Au-dessus, il est écrit « Tout est pardonné en lettres capitales. C'est le dessinateur Luz qui est l'auteur de ce dessin. Il a raconté ce matin dans cette conférence de presse comment ce dessin est né dans son esprit.
En ce qui me concerne, j'étais dans un coin, j'ai cherché. J'ai convoqué tous ces talents, tous les talents du journal, tous ceux qui n'étaient pas là, tous ceux qui sont encore là. Et on s'est dit, et moi je me suis dit, et on s'est dit dans ma tête, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un dessin qui nous fasse marrer avant tout. Il y avait l'idée de dessiner, en tout cas j'avais l'idée de dessiner ce personnage de Mahomet, parce que c'est mon personnage. Il a existé, il existe dans le cœur des gens, et moi il existe quand je le dessine. Un personnage qui nous a valu d'avoir les locaux brûlés, un personnage qui nous a valu d'être au début traité de grand chevalier blanc de la liberté de la presse parce que nos locaux avaient brûlé, alors que nous on est surtout des dessinateurs qui aimons bien dessiner des petits bonhommes, comme quand on est gamin. Et donc j'ai dessiné en disant « Je suis Charlie ». Et ça c'est une idée que j'avais dans la tête, mais c'était pas suffisant, ça faisait pas une. Et je l'ai regardé, il était en train de pleurer, et au-dessus j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré, et c'était la une. On avait enfin trouvé cette putain de une.
En dehors de la une, on sait déjà que ce numéro fera bien 16 pages comme d'habitude, et non pas 8, hein, comme indiqué. Tous les collaborateurs du journal y ont participé.
Oui, y compris Rhys, l'un des dessinateurs qui a été blessé pendant l'attaque à la main droite. Il a donc dessiné de la main gauche pour ce numéro. Il y avait aussi, lors de la conférence de presse, Louison, une jeune dessinatrice salariée chez Marianne, tout comme Tignos, qui travaillait aussi chez Marianne. Elle a collaboré de nombreuses fois avec Charlie depuis 2010. Elle était donc là, à cette conférence de rédaction, et elle expliquait que dessiner a été très difficile pour tout le monde.
J'ai eu une sorte de déjà-vu assez macabre parce que tout d'un coup, quand je me suis retrouvée chez Libé, je me suis revue comme après l'incendie en novembre 2011. Et tout d'un coup, c'était pareil. C'est-à-dire que c'était le côté coup sur la tête, sauf que la différence, et elle était extrêmement pénible, c'est que tout d'un coup, j'avais plus le regard d'un Tignos pour me dire ça va bien se passer, plus la blague de Charbe pour nous détendre un petit peu. Enfin, donc au début, il a fallu un petit peu reprendre ses esprits et j'ai fait 3 dessins. J'ai essayé de faire le moins d'émotions possible, le plus charliesque possible. J'ai pas eu encore le journal en main, donc je ne sais pas si un de ces 3 dessins aura la chance de se retrouver dans ses pages, mais finalement, ça me rassure parce que c'est comme d'habitude en fait. Parce que ça a toujours été comme ça, j'ai toujours proposé des dessins qui n'étaient pas forcément pris. Au moins, quelque chose qui ne change pas, c'est ça. Donc c'est rassurant de se raccrocher à quelques petits trucs du temps d'avant, parce qu'il y a maintenant un avant et un après. 7 janvier.
Justement, la presse 7 janvier 2015, l'équipe de Charlie Hebdo l'a évoqué ce matin lors de la conférence de presse. Et pour le dessinateur Luz, il dépasse largement le destin propre de Charlie.
On va faire Charlie encore, hein. Je ne sais pas comment, dans quelle mesure, avec quel, quel moyen, ça, apparemment, c'est résolu. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que l'esprit Charlie subsiste. Mais il n'est pas que dans Charlie, l'esprit Charlie. Si je suis Charlie, il est dans 3,4 millions de personnes qui ont manifesté dimanche, et bien qu'il l'exprime cet esprit Charlie, qu'il l'exprime en faisant des dessins, qu'il l'exprime en faisant des bouquins, qu'il l'exprime en faisant des journaux, qu'il l'exprime dans le papier, parce que peut-être que pour une fois, là, putain, heureusement, il va y avoir 3 millions de, je ne sais pas combien de trucs qui vont être achetés de Charlie dans les kiosques. Il va falloir aller dans les kiosques. Et bien c'est bien, allez dans un kiosque, achetez Charlie et achetez un autre journal. Profitez-en, si on peut faire vivre le papier. Si à travers ces kiosques et ce papier, on peut faire vivre les idées, et si on peut faire vivre le dessin, on aura vraiment gagné.
Alors en parlant de kiosques, l'Union nationale des diffuseurs de presse indique que donc Charlie Hebdo paraîtra au prix habituel de 3 euros. L'assiette de distribution a été élargie à 25 000 points de vente, y compris donc à ceux qui ne le vendaient pas du tout jusque-là. Tous les points de vente recevront au moins 10 exemplaires, mais l'Union prévient qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Si c'est votre cas et que vous n'avez plus de Charlie dans votre kiosque, suivez les conseils de Luz et achetez un journal quand même.
Et tout de suite, on passe au bref avec vous, Zoé Carbonneau-Lagane. C'est le vendredi, nous sommes bien mardi.
Oui, alors et l'on ouvre avec le traité sur la tolérance de Voltaire qui est depuis la semaine dernière et l'attaque de Charlie Hebdo entrée dans les meilleures ventes de livres en France. Voltaire qui est aussi à l'honneur à Versailles puisque le château a décidé, toujours en hommage aux victimes de ces attaques, d'exposer son buste dans une des galeries du château.
Disparition de l'écrivain de science-fiction Michel Jeury.
À l'âge de 91 ans, il est connu pour avoir renouvelé donc la science-fiction à la française. Il a écrit son premier roman du genre à 17 ans aux Étoiles du Destin. Il a remporté avec Le Temps Incertain le premier et prestigieux Grand Prix de la science-fiction qui gagnera à nouveau en 2001 avec May Le Monde. Dans les années 90, il s'était aussi lancé dans ce qu'on appelle le roman de terroir où il avait rencontré le même succès avec notamment Le Vrai Goût de la Vie, Une Odeur d'Herbe Folle ou L'Année du Certif.
La ville Mons, capitale européenne de la culture, n'est pas tout à fait prête.
Oui, elle doit donner le coup d'envoi, elle devait donner le coup d'envoi des festivités le 24 janvier mais accumule les déconvenues. La sculpture monumentale d'Arne 15 qui intitule Les Passengers, qui devait être l'un des temps forts, a dû être démonté car elle ne tenait pas debout. Quant à la grande exposition Van Gogh, on ignore si elle pourra ouvrir à temps, car le musée des Beaux-Arts de Mons, qui devait l'accueillir, a pris 5 semaines de retard dans les travaux prévus pour cela.
Et la dernière ?
La dernière, on la fera courte, c'est une histoire de télé, de cinéma, d'internet et de Woody Allen. Tout ça en même temps, et oui, car le réalisateur de Manhattan, Anna et ses sœurs, Maudite Aphrodite et j'en passe, n'a jamais écrit de fiction pour la télé et il annonce qu'il va enfin sauter le pas, qu'il va écrire une série télévisée pour le géant Amazon, gagnant en passant un énorme point dans la course pour la TV en ligne, baptisée Untitled Woody Allen Project. La série d'Amazon sera écrite et réalisée donc par Woody Allen, visible en prime, sur Prime Instant Video aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Je ne sais pas comment je me suis mis là-dedans, je n'ai aucune idée et je ne sais pas par où commencer. À mon avis, Roy Prince, le vice-président d'Amazon, va regretter sa décision, a déclaré Woody Allen avec sa légendaire tendance à l'autodérision.
Merci Zoé, on se retrouve demain.
Avec plaisir.
Et on retrouve tout de suite nos invités, Françoise Petrovitch, Thierry Magnier et la session Clog Pelgag.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau monographique avec vous, Françoise Petrovitch, un parcours d'artiste qui commence à la fin des années 90 pour une œuvre qui prend la forme de peinture, céramique, vidéo, avec toujours au centre le dessin. L'œuvre est figurative avec des sujets et des motifs qui reviennent, un bestiaire, des lapins sans tête, des oiseaux couchés, des mains, des gants, beaucoup d'enfants parfois déguisés en squelettes et masqués, la couleur rouge qui a même donné lieu à une série Rougir, on va y revenir, beaucoup de formes hybrides en mutation, des enfants paysages. Quand on visite votre site sur Internet, la première image, c'est une photo de vous, bras croisés, devant un dessin mural monumental qui représente une jeune fille en petite robe, oreille de lapin sur la tête. Qu'est-ce qu'une telle photo dit de vous, Françoise Petrovitch ?
C'est une révérence. Pour moi, c'est une révérence. C'est une fille qui fait la révérence, mais c'est totalement irrévérencieux puisqu'elle, d'abord, elle n'a pas de visage, elle ne sourit pas. Et puis, elle est très grande, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que celui qu'elle salue. Donc, il y a une disproportion, il y a quelque chose d'inversé.
Actuellement, double exposition, un ouvrage qui rassemble vos œuvres récentes entre 2011 et 2014, publié chez Semios Éditions, et puis une exposition de 40 œuvres au Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Quelle est la pièce qui ouvre chacun des deux supports ? À Chambéry, vous ouvrez l'exposition par quelle pièce ?
C'est un dessin. C'est un dessin qui s'appelle Le Ventriloque. Donc, c'est une femme qui tient un enfant. Enfin, je dis un enfant, mais ce n'est pas un enfant, c'est une marionnette, justement, dans sa main. C'est cette idée comme ça du double Elle parle, on assiste à un dialogue qui n'en est pas un. Et on arrive là-dessus. Alors la peinture, c'est muet, évidemment. Et en même temps, ça parle de personnes qui se parlent.
Et pour, non pas le catalogue, mais l'ouvrage aux éditions Sémiose, vous ouvrez par
Elle va le prendre. La couverture, hein,
c'est ça? C'est la couverture. Première
alors,
image.
La couverture, c'est un garçon qui est habillé avec un squelette. On n'est pas habillé avec un squelette, on a un squelette à l'intérieur, mais bon, là, je dis ça. Et puis, qui a un masque, on ne voit pas, ses yeux sont baissés, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur. Et en même temps, on a comme une image, c'est une peinture, donc ça file, c'est peint. Et c'est une peinture qui est plein cadre, plein pot, dans le livre, comme ça. C'est un livre épais, donc il y a un espèce de morceau. C'est une sculpture aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de massif.
Pourquoi avoir mis ce dessin, cette peinture, en couverture?
Parce que je voulais présenter de la peinture. Je voulais qu'on voit de la peinture de mon travail et qu'on ne voit pas du dessin.
Pourquoi fallait-il en passer par cela? En effet, la peinture est arrivée vers 2010. Elle était déjà un peu présente, mais elle s'est radicalisée vers 2010. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai très envie de peindre et en même temps, je me suis autorisée à peindre depuis quelques années. Je vais dire ça. Je peignais avant, mais je n'étais pas très...
Pas très quoi ?
Pas très contente, on va dire ça. Et puis la peinture, c'est tellement grand, pour moi, c'est tellement important que c'est difficile. La peinture, c'est difficile. Et donc, c'était pour moi plus aventureux de mettre une peinture en couverture.
Thierry Manier, j'imagine que vous connaissez un petit peu l'univers de Françoise Petrovitch.
Oh, tout à fait, oui.
J'imagine. Quels sont les dessins ou quelles sont les images qui ont pu vous marquer ?
Moi, immédiatement, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas encore travaillé ensemble ?
Parce qu'il y a vous vraiment... êtes éditeur, en effet, de livres jeunesse.
C'est vraiment... voilà, il y a des images qui me parlent immédiatement et qui parleraient fortement à des enfants, j'en suis sûr.
Françoise Petrovitch, pourquoi n'avez-vous jamais travaillé ensemble ?
Parce qu'on ne se connaissait pas, mais je connaissais votre travail, c'est sûr.
Moi aussi, mais c'est vrai. Comme ça, souvent, voilà, il faut une opportunité. Et là, ça y est, c'est fait ce soir. Je pense qu'on va échanger nos adresses.
Moi, je connaissais de vous un livre super de Vukevitch. Pourquoi? Il est super, ce petit livre. Et puis, tout un monde de Cathy Coupry aussi.
Et Antonin Louchard.
Ouais.
Cathy Coupry, qui est illustratrice. Pourquoi ce livre? Pourquoi était-il important pour vous? Ça représente quoi?
Parce que, alors, vraiment... personnel, c'est mon fils qui avait ce livre et qui nous a bassinés avec ce livre, c'était vraiment son livre.
Ça, c'est la réussite d'un éditeur quand l'enfant bassine après avec
c'est
un
livre. Surtout qu'on en lit très peu et je pense qu'on en a lu très très peu, donc voilà, il était facile à lire celui-là. Et puis,
encore fallait-il pouvoir prononcer le pourquoi comme une grenouille, c'est la difficulté.
Et Vukevitch, le côté, c'est un ami, donc...
Voilà.
Lucille.
Je vais rebondir, Françoise Petrovitch, sur le fait que vous décriviez votre portrait comme un enfant habillé en squelette. Il y a des portraits d'enfants et d'adolescents qui sont d'ailleurs dans l'expo et qui sont dans le livre, qui portent des t-shirts sur lesquels sont peints des paysages. Ils sont habillés en paysages. Ça s'appelle des paysages à l'estomac. Qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette manière de représenter le paysage dans le portrait? Et jamais d'ailleurs de paysage tout simple.
Ces paysages à l'estomac, c'est finalement le paysage qui est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que je ne sais plus où je suis où je me situe. C'est-à-dire que je suis dedans, cette peinture, je suis à l'extérieur, je la vois de loin, je suis à côté, je contemple ce paysage. Est-ce un souvenir de ce paysage? C'est-à-dire que je l'ai sur moi comme une espèce de carte postale. Ce qui m'intéresse dans le paysage, c'est aussi cette relation à ce qu'on en fait. C'est-à-dire que le paysage, c'est immense, c'est grand, on est dedans, on se déplace. Et la carte postale, c'est finalement l'image de ce paysage. Et là, c'est comme une carte postale sur soi, comme un espèce d'emblème. Donc il y a quelque chose de... une mise en abîme et en même temps, ça traverse. C'est-à-dire ça traverse le corps, c'est un paysage intérieur.
Est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur... deux formats dans l'histoire de l'art, deux genres, c'est-à-dire à la fois le paysage et le portrait que vous réunissez en un seul, par effet de transparence.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est quand même des... Enfin, le portrait est d'abord là, et en même temps, il est question du paysage. Donc, on ne sait plus on parle à qui.
Il y a une référence marquante, selon François Michaud, qui signe un texte du catalogue. C'est un tableau de Magritte, qui date de 1927, le titre « Jeune fille mangeant un oiseau ». Il serait sans doute le point de départ de plusieurs de vos œuvres. Quel écho est-ce que cette toile a pu trouver chez vous, si François Michaud a raison?
Mais c'est la cruauté de cette toile qui m'a plu. Parce que Magritte n'est pas cruelle. Et en même temps, cette toile est ultra cruelle. Donc tout d'un coup, on se dit « Tiens, comment c'est possible ?» cette fille mange un oiseau comme elle mangerait un paquet de bonbons, quoi. Et c'est cru, c'est direct.
Vous l'avez vu dans un livre ou vous l'avez vu dans une exposition ?
Je l'ai vu dans un livre. Mais j'ai vu beaucoup de Magritte quand même, en vrai. D'ailleurs, c'est la peinture de Magritte est fascinante à voir parce qu'on peut croire que c'est une image un peu boîte de chocolat. On peut penser ça. Et quand on le voit, on est surpris et c'est absolument pas ça. Mais absolument pas ça. Et c'est ça qui est. D'ailleurs, c'est ça la force de la peinture, c'est qu'il faut la voir.
Lucille.
Il y a dans le livre une place particulière à une série qui est la seule section délimitée du catalogue, une série qui s'appelle Rougir, qui est un work in progress, commencé en 2005, que vous poursuivez toujours aujourd'hui, qui sont des dessins tracés avec toujours la même couleur rouge. Comment est née cette série et surtout, comment vous décririez cette couleur-là, ce rouge-là ?
Alors cette série, c'est comme un carnet de croquis. Qui se développe sur plusieurs années. Là, 2005, on est en 2015, donc voilà, 10 ans. Ça va bientôt. Je pense que je vais l'arrêter là. Et donc, ce sont des dessins directs. Donc, j'avais envie que les choses soient directes à l'échelle. C'est-à-dire que ce sont des sérigraphies réalisées à l'échelle. Il n'y a pas de réduction. Donc, c'est un tracé direct. C'est important pour moi. C'est un dessin immédiat. Et puis, c'est un petit peu toutes les choses de la vie. Un peu prétentieux de dire ça, mais du coup il peut cohabiter sur un grand mur. Ce sont des grandes installations. Il peut cohabiter des choses comiques, des choses tragiques, ridicules, légères, déplaisantes. Et du coup, le fait qu'elles soient beaucoup et qu'elles soient ensemble me permettent de les faire exister. Ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que je le fais avec légèreté et je le fais continuellement. Et le rouge, parce que je voulais une grande simplicité, donc il fallait une couleur. Le noir, ça aurait été trop graphique et trop marqué graphiquement. Donc le rouge était lumineux. Et le rouge, c'était aussi une action. Pour moi, je l'ai appelé rougir. C'était l'idée de rougir. C'est comme le rouge aux joues, c'est comme quelque chose qui est en action. Voilà, il y avait cette idée d'action, de quelque chose d'actif, puisque c'était un work in progress.
Comment on arrête une série, puisque vous dites que vous allez peut-être l'arrêter.
Ouais, je crois
qu'il y a un dessin une fois qui dit ça y est, c'est fini.
Je crois que c'est la lassitude. Je me lasse moi-même de ce que je fais, donc j'arrête. Je crois que je le sens là.
C'était la même chose qui s'est passée quand vous avez fait votre série Radio Petrovitch.
Exactement.
Vous pourriez rappeler peut-être le dispositif de cette série.
Alors en 2000, j'ai eu envie de faire un projet sur le... Je ne sais pas, je voulais quelque chose dans le temps qui se déroule. Et j'écoutais beaucoup la radio. Alors là, c'était France Inter, hein, mais bon.
C'est pas grave, voilà. C'est des collègues.
C'est des collègues. Et donc, je voulais... je l'ai fait. J'ai enregistré la première info que j'entendais tous les matins sur France Inter.
Ouais.
Et pas d'ordi, hein, donc c'était avec les cassettes. On sautait, je dis on parce que la famille participait, on sautait sur le radio cassette. Et donc j'ai la trace de tout. Hein. Et je faisais un premier dessin qui était une réponse à ce que j'entendais, à l'information, la première info que j'avais entendue le matin. Donc je ne connaissais pas du tout l'information. Je m'étais mis dans ce protocole comme ça de répondre à ce que j'entendais, puisque la radio, on écoute, mais on ne répond jamais. Donc il y avait une frustration, j'étais un petit peu frustrée toujours d'entendre, voilà. Et puis en plus, on ne sait jamais ce qui va nous toucher, quoi, finalement. De très grandes choses ne peuvent pas nous toucher. Et dans ma journée, je faisais un deuxième dessin qui était un petit moment de ma vie, comme un carnet intime, ou pas trop intime, enfin. Et du coup, ça fabriquait un espèce de diptyque qui n'avait rien à voir l'un avec l'autre, simplement le fait qu'ils ont été faits par la même personne la même journée. Et j'ai tenu ce projet pendant 2 années. Donc il y a 1465 dessins qui correspondent donc à 2 années d'écoute.
Et à quel moment avez-vous arrêté ? Sur quel dessin ? Sur quelle nouvelle ?
Le jour d'une grasse matinée, peut-être ?
Non, parce que je suis très matinale. Oh là là, évidemment, je n'en ai pas la mémoire, j'ai honte. C'est vrai.
C'était peut-être un événement ?
Non, je crois que c'était... Non, parce que j'ai commencé, en réalité, j'ai commencé 27 mai 2000. Et j'ai fini donc 27 mai 2002. Et je crois que c'était au moment de Chirac, oui, non, c'était les manifs.
Lucille Comeau.
Vous avez réalisé ces dernières années plusieurs vidéos, passant du dessin au dessin animé, comme cette vidéo qui est au musée à Chambéry, qui s'appelle Le Loup et le Loup, que vous avez réalisée en 2011, avec un grand cerf, un couple d'enfants, l'évocation peut-être d'une chasse, bref, des motifs de conte. Si le fonctionnement n'est pas narratif, parce que vous refusez absolument ce fonctionnement narratif, comment est-ce que vous utilisez la forme vidéo ?
On est dedans, la vidéo, pour moi, c'est une installation, c'est-à-dire qu'on est plongé dans un son et dans une couleur. Là, c'est un son d'une poursuite et puis c'est le rouge pour celle-ci. Et c'est comme un jeu qui finit mal. Hein. C'est une boucle comme ça, une course-poursuite qui finit mal. Et il y a quelque chose de haletant qui se déroule et les images sont réelles. Les images, enfin, mes dessins sont réellement montés sur le son. C'est pas une vidéo filmée. Là, on est vraiment ce sont des dessins et ces dessins sont la matière même avec le son.
François Petrovitch, on l'a bien compris, l'enfance est au centre de votre travail, c'est même la colonne vertébrale de votre œuvre. Qu'est-ce que vos dessins doivent à la vôtre, à Chambéry ?
Je ne sais pas trop ça. Hein. J'essaye même pas de me poser la question finalement.
Alors, quelles sont par exemple les images que vous associez à votre enfance ?
Ah ben, moi, je suis née à Chambéry en montagne, donc j'étais à la campagne aussi. Donc j'étais, par exemple, on ramenait les vaches à l'écurie, voilà, des choses comme ça, quoi, très simple. Moi j'avais beaucoup de nature, beaucoup de montagnes, l'école, des petites écoles, le sport un peu obligatoire, puisque tout le monde fait du ski, même si on n'aime pas le ski, ce qui était mon cas.
Pareil pour moi.
Voilà.
Pareil pour vous aussi, Thierry. Ouais, pareil.
On ne sait pas quoi faire. On est un peu. On essaye de s'échapper un peu comment, je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai aussi que c'était cette idée du sport un peu qui magnifie tout, qui était. Et comme je ne suis pas sportif, on est un peu mal, quoi.
Il y avait des images chez vous ?
Pas beaucoup. Mes parents avaient une reproduction du Vermeer, le peintre de Vermeer. Voilà, c'est un superbe tableau avec le grand drapé extraordinaire. Mais sinon, non.
Thierry Magnier, votre enfance à la montagne, c'était où ?
Ah non, moi, je n'étais pas à la montagne. Ah, mais j'ai toujours détesté la neige et la montagne.
Ah oui, d'accord.
Et le sport en particulier.
Ça va de pair. Lucille.
Comme tous les jours, Françoise Petrovitch, on demande à nos invités d'apporter un son qu'ils avaient envie d'entendre. Et vous, vous avez demandé ça. On sait un peu maintenant pourquoi vous l'avez choisi, mais vous allez nous en dire plus, François Petrovitch.
Qu'est-ce que c'est ?
Je voulais un son de silence. Et je trouve que le silence est l'un des silences que j'ai appris, enfin, que je trouve le plus particulier, le plus singulier, c'est le silence dans la neige. Mais un silence à la radio, ce n'est pas facile. Vous alliez penser qu'il y avait un problème technique. Donc je me suis dit, il faut que des gens marchent dans la neige. Et c'est aussi cette idée d'un chemin qui se fait sur quelque chose de très blanc. Ça a à voir avec le dessin, finalement. Comment on écrit, comment on marque sur une feuille, comment on est présent. Et puis, cette idée du pas, c'est aussi c'est à notre échelle. C'est-à-dire que le dessin, c'est à l'échelle de soi. C'est-à-dire qu'on dessine avec ce qu'on a dans la tête et on dessine avec sa main. Donc, il y a une relation très, très importante au corps. Et voilà, je voulais un son qui parle du corps. Et puis, j'aime bien le silence. J'aime pas beaucoup le bruit. Je suis très gênée avec plein de bruits, de musique. Je suis pas très. J'aime bien être seule comme ça.
Vous avez raison, ça a un rapport véritablement même avec le blanc du dessin, parce que pendant longtemps, le fond n'a pas existé dans vos dessins. Mmh. C'était le fond de la feuille, c'est-à-dire c'était le blanc de la feuille. Qu'est-ce que cela vous permettait de ne pas travailler le fond ?
Ça permet de décontextualiser, c'est-à-dire d'avoir ni temps ni espace. Les choses sont données comme un. Elles sont là, mais il y a l'idée d'une apparition. Je pense.
Et à quel moment le fond a été travaillé ? Parce qu'il l'est forcément avec la peinture.
Justement, c'est la peinture qui ramène. Il y a cette question du fond dans la peinture. Et puis maintenant, le fond vient dans mes dessins comme des réserves. C'est-à-dire que c'est des endroits blancs qui sont laissés et qui permettent à celui qui regarde de se projeter.
Lucille ?
Quand vous étiez enfant, vous dessiniez quoi ?
Alors, je dessinais des princesses qui se faisaient pousser par des garçons sur des balançoires. J'en ai plein. C'est vrai. Et ils avaient tous des têtes penchées comme ça. Et tout était magnifique. C'était un monde magnifique.
Les filles étaient des princesses. Et les garçons étaient quoi? Des garçons, simplement?
Bah,
pas
exactement.
Des princes, des garçons.
Bon, peut-être des princes, mais je ne me rappelle pas vraiment. Simplement, ils faisaient toujours quelque chose pour servir les filles.
En quoi le dessin serait la technique la plus proche de la pensée? C'est vous qui l'avez déclaré.
Je trouve que c'est plus direct. Il n'y a pas d'effet de mise en œuvre comme la sculpture ou même la peinture. Il y a des effets. Le temps est très raccourci, c'est-à-dire je pense, je dessine. Et en même temps, il y a une grande liberté, une grande fluidité, c'est-à-dire une grande mobilité dans le dessin qui est vraiment, je trouve, en raccord immédiat avec la pensée. Comme Radio Petrovitch, c'est-à-dire je pensais quelque chose, je le dessinais, je ne recommençais pas.
Thierry Manu, dans quelques instants, on va parler de votre travail d'édition. Comment vous choisissez vos illustrateurs? Est-ce qu'il y a une école Thierry Manier pour l'image dans vos livres?
Non, pas une école, mais surtout, je suis quelqu'un de gourmand et qui aime bien goûter les choses. Et quand je vois un travail qui m'intéresse, j'ai envie de provoquer les gens. C'est pour ça que beaucoup d'artistes qui travaillent avec moi sont des plasticiens aussi. C'est-à-dire qu'ils sont dans un... Voilà, ils n'ont pas forcément envie au départ de faire un livre pour enfants. Ils sont vraiment dans leur travail, dans leur technique. Et de les amener là, je trouve ça toujours très, très intéressant.
Lucille, dernière question.
Quand on regarde votre œuvre, Françoise Petrovitch, et notamment ce grand dessin mural dont parlait Laurent au début de l'émission, on pense à un récit pour enfants qui est Alice au Pays des Merveilles. Il y a des lapins étranges, il y a des jeunes filles, des personnages qui sont à la fois toujours inquiétants et puis très enfantins. Qu'est-ce que cette histoire représente pour vous?
En réalité, elle ne représente pas tant que ça de choses parce qu'elle est très compliquée. Je crois que je ne la comprends pas encore maintenant. Et j'aime bien tous ces mondes comme ça qui s'ouvrent. J'ai l'impression que tout est possible dans Alice. Tout est possible, tout est son contraire. C'est ça qui m'aime, c'est ça qui m'amuse.
Et la représentation des enfants par Lewis Carroll, est-ce que ça a pu vous intéresser dans ces photographies?
Oui, j'aime beaucoup ces photos. Et je les regarde et je me dis, je les aime vraiment beaucoup.
Thierry Manier, vous l'éditeur jeunesse, comment vous regardez, comment vous lisez, vous comprenez Alice au Pays des Merveilles?
Mais je crois que vous avez un peu raison, parce que est-ce qu'on comprend tout dans Alice? Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr du tout.
Mais c'est un monde, un monde à part, un monde à côté, et à la fois on peut y comprendre ce qu'on a envie d'y comprendre et se projeter à l'intérieur de ça.
Vous pourriez l'illustrer, Françoise Petrovitch?
Ça a été tellement illustré,
beaucoup, oui.
Qu'il faut plus y toucher, je crois. Enfin, pour moi.
Plateau Enfance avec vous, Thierry Manier. Vous êtes le fondateur des éditions qui portent votre nom, responsable de la branche jeunesse d'Actes Sud et écrivain. Et vous publiez en cette rentrée votre deuxième roman, Ma mère ne m'a jamais donné la main. C'est aux éditions Le Bec en l'air, dans une collection qui réunit des écrivains et des photographes. Et c'est Francis Joly qui signe les photographies de votre livre. Alors, c'est l'histoire à la première personne d'un homme torturé et solitaire. Et à la suite de l'appel d'un notaire, il va revenir sur les lieux de son enfance dans un pays qu'on devine être l'Algérie. Ressurgissent alors des souvenirs plutôt douloureux, un accident, le corps du père au bas d'un escalier, le mutisme de la mère, et puis le sentiment d'abandon qu'éprouve le narrateur délaissé par sa mère et sa sœur jumelle. Le roman donc a été publié dans une collection qui s'appelle Collatéral, qui fait le lien entre littérature et photographie. Comment est-ce que vous avez travaillé à partir de ce matériau? Est-ce qu'il a précédé d'abord le récit?
Alors, c'est tout un travail. Alors, Fabienne Pavia, qui dirige donc cette maison d'édition Le Bec en l'air, propose effectivement... un photographe. Bon, il s'avère que Francis Joly est aussi quelqu'un que je connais, dont je connais le travail. Et à partir d'une quantité d'images, je regarde déjà des images et j'essaie d'imaginer quelque chose, une histoire. Voilà. Et ensuite, on travaille pratiquement ensemble. C'est-à-dire que je commence à écrire, il me montre une image. C'est un échange permanent pendant toute la construction du livre, avec de temps en temps des moments de distance pour que l'écriture puisse se faire et qu'on et il pouvait à ce moment-là ajouter des images ou en retirer ou parce qu'on pensait que c'était trop redondant, trop narratif par rapport à certaines images. Donc essayer, voilà, c'est vraiment un travail en commun, un travail d'équipe vraiment, mais avec quand même chacun notre travail.
Est-ce qu'il y a une photographie qui vous a lancé dans l'écriture de Francis Joly?
Celle qui est en couverture. Immédiatement.
Vous voulez
l'écrire ? Cette couverture qui est une maison abandonnée avec un palmier et avec des ombres. Et puis il y a une autre image à l'intérieur qui m'a donné vraiment l'idée du père. C'est le fantôme, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a plein de, de silhouettes comme ça qui disparaissent dans le fond. Et ça, ça m'a vraiment excité pour écrire quelque chose.
Lucille.
En exergue du roman, deux citations de la romancière Violette Leduc. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Déjà, elle m'a offert le titre, puisque c'est ma mère ne m'a jamais donné la main. C'est la première phrase d'un de ses romans. C'est une femme qui était beaucoup dans la souffrance, qui dit à un moment, justement, c'est grâce aux mots qu'on peut dire. Enfin, c'est ça qui la sauve, c'est les mots qui la sauvent. Et je trouve que dans l'écriture, c'est tellement salvateur, les mots, que c'est ça qui. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça qui m'aide parfois. Je peux pas dire les choses, je peux les écrire. Et en les écrivant, en plus, quelquefois, je dis autre chose et on comprend encore autre chose. C'est magique.
Est-ce que c'est aussi son statut d'autodidacte qui vous
a
marqué ?
Oui, ça j'adore. Moi, les autodidactes, je les adore.
Vous-même ?
Moi-même, je le suis, oui.
Pour ça, c'est trop vite.
Non, mais j'adore, alors je m'adore.
Voilà, c'est ça.
Vous avez lancé, il y a quelque temps, une collection qui s'appelle Photoromans. Qu'est-ce qu'il s'agissait de défendre ?
Alors, ça, c'était. Alors, donc, là, c'est pour les enfants et les adolescents. J'ai toujours aimé la photographie et j'ai toujours trouvé que la photographie dans la littérature jeunesse était utilisée souvent dans les documentaires. Voilà, on expliquait quelque chose, il y avait une photo qui expliquait encore mieux, etc. Et on l'utilise très peu dans l'imaginaire. L'illustration, en général, c'est effectivement de la peinture, des dessins, etc. Et rarement, vraiment de la photo. Et je trouvais que c'était intéressant. Alors là, le système de photoroman, c'est encore différent. L'idée, c'est de donner à un écrivain une série de photos. Alors ça, c'était Jeanne Benhamer et Francis Joly, déjà, qui étaient dans le coup au départ quand on a créé cette collection. Et l'idée, c'est de donner à cet auteur une série de photos sans dire pourquoi... comment et qui est le photographe qui a fait ces photos. C'est-à-dire que là, c'est une dichotomie totale, c'est-à-dire qu'ils ne savent rien du tout. C'est ensuite qu'on les fait se rencontrer.
À l'origine d'ailleurs de vos dessins, de vos peintures et quelquefois de vos céramiques, est-ce qu'il y a la photo ? Est-ce que vous pratiquez la photo, Françoise Petrovitch ?
Je ne la pratique pas, mais je prends des photos, je prends beaucoup de photos que je garde, qui n'ont pas d'intérêt autre que
une base de travail.
Voilà, base de travail. Et en même temps, quand je dessine, je n'ai plus du tout la photo à côté de moi.
Elle s'est fixée simplement au moment où elle a été prise.
Je l'imprime. Je la vois, mais puis je ne la vois plus.
Lucille.
Thierry Magnier, vous êtes éditeur jeunesse, passionné par cette littérature dont vous parlez beaucoup. Et pourtant, à ce que je sache, vous n'avez jamais publié dans ce cadre-là.
Si.
Ah, mais on a cherché, hein, c'est pour ça.
Il y a quelquefois sous des pseudos.
Voilà.
Voilà. Mais j'ai écrit mon premier ouvrage que j'ai fait pour les enfants, c'était un album chez Gallimard Jeunesse qui s'appelait Solange et l'Ange, qui avait un rapport avec la peinture. Et si, j'en ai écrit. J'ai fait aussi le livre de fesses, par exemple.
Mais pourquoi fallait-il passer par le pseudo pour la littérature jeunesse ?
Parce que le pseudo, je l'ai utilisé. Non, ailleurs, je l'ai utilisé sous mon nom. Mais dans ma maison d'édition, je voulais pas. Voilà, c'était un peu. Du coup, j'ai arrêté totalement d'écrire pour la maison. Je trouve que c'est bien d'aller. Quand on est auteur, je pense qu'on a besoin de se frotter à un éditeur. Le rôle d'un éditeur est important. Et d'aller ailleurs, c'est aussi, moi, me frotter à un éditeur qui corrige, qui travaille, qui fait réfléchir. Alors que quand on a écrit quelque chose, on est presque sûr de... Enfin, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr, mais on dit ça y est, c'est fini. Et quand il y a quelqu'un qui est là pour le faire retravailler, c'est plutôt bien.
Quel a été à ce sujet votre premier geste d'éditeur quand vous fondez votre maison en 98 ? Par quel premier texte fallait-il ouvrir la collection pour lui donner l'impulsion et même sa signature, Thierry Magnier ?
J'avais la prétention de vouloir faire ce que les autres ne faisaient pas.
Il s'adore. Vous avez raison, Françoise Petrovitch.
Il s'adore. Non, mais on a envie de ça. Je crois que quand on est éditeur, on a envie de faire autre chose.
Et alors, c'est passé par ?
Eh bien, c'est passé que je suis parti. Je travaillais chez Gallimard à l'époque. Je suis parti en vacances et je suis parti. À l'époque, c'était encore des fax
avec et avec mon copain Antonin Louchard, je lui ai dit on va faire une série de cartonnés pour les tout petits, mais un peu destroy, il y en a marre, un peu des petits ours bien sages et propres, et on va faire et il m'a envoyé des premières images, et on commençait à écrire des qu'on n'a jamais fait d'ailleurs, qui s'appelait Riton le raton, qui n'a jamais été fait, mais qui a donné naissance à une collection qui s'appelle Tête de l'art, où chaque dont le pourquoi de Vooch sur le, et c'est fait comme ça.
Lucille.
Parmi vos publications récentes, il y a ça.
Le surlendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. « C'est vous, Ernesto ?» demande-t-il. « Exact, » dit Ernesto. « En effet, » dit le maître. « En effet. » Je ne vous reconnais pas. Moi, si, dit Ernesto. La maman montre Ernesto et hausse les épaules. Vous voyez tout de suite le genre, dit-elle.
C'est Jeanne Moreau, on l'aura reconnu, qui lit à Ernesto, le récit écrit par Marguerite Duras pour la jeunesse. C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il ne veut pas apprendre des choses qu'il ne sait pas. Qu'est-ce que ce texte de Marguerite Duras dit de ce que vous défendez en littérature ?
C'est exactement ce que j'ai envie de défendre en littérature jeunesse. C'est-à-dire que d'abord c'est Marguerite Duras, et je vous assure, moi je suis vraiment un fan de Marguerite Duras.
On a La Neige, la haine du ski, Marguerite Duras en commun.
Bon, très bien.
Je crois aussi continuer. Pour vous, Françoise Petrovitch.
Bien sûr.
Et c'est vrai que, bon, il y avait le centenaire de Marguerite qui était là, et je savais qu'il y avait ce texte qui est très peu connu, et qu'elle a mis un temps fou à écrire. C'est-à-dire que c'est un travail absolument incroyable, le temps qu'elle a mis. Et c'est comme ça que je commence le bouquin, en disant que souvent, des auteurs de renommée viennent me voir en disant « Je voudrais te faire un petit livre pour les petits-enfants, Thierry ». Je ne veux surtout pas ça, je veux un livre, un vrai livre. Et Duras avait déjà tout compris, elle a vraiment travaillé. Et avec un texte qui est la première fois est paru chez Arlene Quist, il y a 40 ans quand même, qui était très subversif, qui autorisait un enfant à dire non. Et ça, je trouve, c'est quand même assez merveilleux d'autoriser ça. Il y a 40 ans, dire à un instit qu'un enfant pouvait dire non, c'était un peu compliqué. Ça l'est de nouveau un peu compliqué. Donc je trouve que c'était d'une actualité absolument remarquable. Et c'est vrai, quand j'ai fait ce bouquin avec Cathy Coupry, on l'a réillustré. Et puis j'ai fait le Aduras à côté pour expliquer la genèse de ce bouquin. Et j'ai demandé effectivement à Jeanne Moreau. Alors là, c'était vraiment comme un espèce de rêve. Voilà, on va envoyer quelque chose. Et elle a répondu immédiatement en disant « J'adore ce texte et je vais vous le lire ». Et c'est comme ça qu'on a eu cette voix de Jeanne Moreau.
Parmi vos dernières publications, il y a aussi une saga, une trilogie, on va dire, qui s'appelle La Voix de la Meute, dont deux tomes sont parus, l'histoire de trois enfants qui sont attaqués par des chiens sauvages et qui se transforment. Ce type de publication en plusieurs tomes, qui fonctionne en fait en feuilleton avec des effets de suspens, comment est-ce que vous expliquez que ce soit cette forme-là qui marche systématiquement le mieux pour la jeunesse ?
Alors justement, chez nous, on n'avait pas l'habitude de faire des séries et de faire de la littérature de genre pour les ados, parce que j'avoue que je ne suis pas un fan de ça, je ne suis pas science-fiction et autres, ça m'agaçait un peu. Or là, Greg Agastin nous a proposé quelque chose qui nous a un peu surpris. Quand on a lu le premier, on s'est dit, mais c'est autre chose justement que l'histoire de loup-garou. C'est vraiment une métaphore de l'adolescence. Vous savez, quand vous avez un adolescent si gentil, si doux, et tout d'un coup il se transforme en animal boutonneux, méchant, avec ses sautes d'humeur, c'est exactement ça, c'est vraiment le loup-garou, quoi. On ne sait plus quoi en faire, on ne sait pas comment il va réagir. Donc je trouvais ça très intéressant qu'il y ait ces deux niveaux de lecture, à la fois pour les adolescents, retrouver l'histoire de loup-garou, et à la fois pour les gens qui lisaient à côté, les adultes, voyant que c'est vraiment une histoire d'adolescent. Donc j'aimais bien, et le fait de faire une saga, le troisième sort très prochainement aussi, je trouvais ça intéressant de justement, et avec une vraie écriture, parce que ça aussi, malheureusement, dans la littérature de genre, il y a de très bons auteurs, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas très bien écrites. Or là, il y a vraiment une vraie écriture.
J'imagine que ces histoires d'adolescents qui se transforment en loup-garou, c'est quelque chose qui peut vous parler, Françoise Petrovitch, au vu de vos peintures et de vos dessins.
Je crois que ça parle à tout le monde. On est assez surpris, et puis en même temps, ça passe. Donc,
ça finit par passer. Finit par passer, mais c'est quelquefois un moment un peu difficile.
Comment vos enfants ont regardé vos dessins ? qui quelquefois les représente, Françoise Petrovitch.
Alors, j'ai une fille et qui est l'aînée et mon fils. Et ma fille dit toujours, mais tu dessines toujours Paul. Et beaucoup moins moi. Donc, c'est marrant, c'est aussi une... Ils ont été toujours... Finalement, j'ai souvent eu l'atelier au cœur de la maison. Donc, c'était clair que le travail était quand même au cœur de la maison, dans une pièce qui n'avait pas de porte. Et ils ne franchissaient pas l'atelier. C'était même tout petit. C'est-à-dire, moi, je ne m'occupais pas forcément d'eux. Mais ils savaient que là, c'était le lieu du travail et... C'est vrai que les enfants ne sont pas des cons, hein, je veux dire. Et donc, c'était simple. Ça a été assez simple. Et je pense qu'ils ont grandi avec le travail qui évolue. Et il me semble qu'ils ont un œil très, 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 très précis sur le travail et très, très juste.
Quand elle vous dit que vous dessinez plus Paul qu'elle, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ben pas grand-chose, hein. Je suis obligée d'accepter ça.
Lucille.
Vous, Thierry Magny, vous avez été enseignant pendant quelque temps dans un collège. Qu'est-ce que ça a pu déterminer justement dans votre rapport à la lecture et à l'écriture pour les adolescents ?
Ben, effectivement, ça a été un peu un déclic parce que je faire lire des adolescents, déjà même à l'époque, c'était difficile. Des jeunes qui n'avaient pas forcément... accès à la culture, à la lecture, c'était en milieu agricole. Et c'était le challenge tous les jours de dire comment je vais pouvoir les intéresser à une histoire, si petite soit-elle. Comment je peux les exciter un petit peu à ce qu'ils m'écoutent. Alors en commençant à lire une histoire et pas la finir avec un suspense comme ça, ils avaient envie de continuer. Espèce de truc. Et je me dis, mais là, il y a quand même un travail à faire. Il n'y a pas assez de livres pour ça, donc il faut les faire.
Et vous, quelle est la littérature qui vous a fondé ?
Alors, moi, j'étais lecteur un peu tard. C'est quand je suis rentré en pension, en quatrième, troisième, où j'ai dévoré. Parce que c'est toujours une histoire de rencontre. Je crois que tous les gens que je vois me parlent de rencontre d'un bon prof ou d'un bon instit. Et là, j'ai lu, comme vous savez, quand on est en pension, et puis dans une pension pas très sympathique, c'était moyen, comme je n'aimais pas le sport, comme vous pouvez le constater, je me suis mis à lire Zola, Stendhal, et voilà, toute cette littérature classique. Et voilà, je me faisais des films, j'aimais ça, c'était parti. Voilà, à partir de là, ça ne s'est jamais arrêté.
Lucille.
Comme tous les jours, on demande donc à nos invités de venir avec un son. Et vous, Thierry Magnier, vous avez choisi ça. Identification du son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
C'est une deux chevaux. Mais ça parle à tout le monde, cette deux chevaux. Mais c'est une deux chevaux. Mais en fait, quand vous m'avez demandé un son, j'avais que des parfums et des odeurs. Et ça, c'est pas facile non plus à la radio, un parfum. Moi, je fonctionne vraiment là-dessus. Et cette deux chevaux, c'était une deux chevaux quand j'étais petit. Mon père avait l'autorisation de prendre une deux chevaux de l'entreprise le week-end. Et dans cette deux chevaux, camionnette, on mettait une lessiveuse au milieu et on partait à Cabourg chercher des coques. Et il y avait cette odeur de... Et encore, l'autre jour, j'ai rencontré une deux chevaux, elle allait très bien, et elle sentait ça. Il y a une odeur absolument incroyable. Et dès que je rencontre une deux chevaux, j'entends ce son, je sens et je vois les coques, je vois Cabourg, et voilà, avec toute la famille. Et on ramenait des bassines complètes de coques. Je ne sais pas si on les mangeait toutes, d'ailleurs, je ne me souviens plus de ça. Après, je me souviens de l'odeur de la coque. Et puis après... Cette voiture restait le week-end dans le jardin et j'avais le droit de l'utiliser comme une cabane. Et ça, j'adore les cabanes.
Le rendez-vous, la session.
Et pour terminer, eh bien, la session du mardi, ambiance québécoise ce soir, Benoît Lagane. Oui, comme c'est bizarre.
Eh oui, session alchimie et monstrueuse avec Claude Pelgag, jeune
auteur. C'est
pas très
gentil, alchimie et monstrueuse.
Mais si, vous allez comprendre, c'est par rapport au titre de son album. Voilà, vous allez tout comprendre. Donc, Claude Pelgag, Laurent, jeune auteur, compositrice et interprète, venu tout droit du Québec, plus précisément de Montréal, mais originaire d'une région un peu plus loin, du bas du fleuve, à plus de 4 heures de route de Montréal. Et c'est là, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, que la chanteuse s'installe, dit-elle, sur son site internet, pour composer et écrire sous influence, alors en vrac, des œuvres d'art, des textes littéraires ou théâtraux, du cinéma et de la musique, plusieurs noms peut-être, Botero, Dali, Régent du Charme, le cinéaste cinéaste américain Wes Anderson, le documentariste québécois Pierre Perrault, les musiques de Gilles Vigneault, Frank Zappa, mais aussi Debussy. Mais c'est essentiellement la découverte de Boris Vian et d'Eugène Ionesco qui lui ont permis, dit-elle, de se situer quelque part et ont poussé inconsciemment celle qui voulait être comédienne à écrire et chanter des textes étranges et poétiques, un monde abstrait pour des chansons déviées de la réalité. Je la cite encore. Grand prix de la francophonie de l'Académie Charles-Cros, révélation de l'année au gala de la Disque. Vous savez ce que c'est la Disque ?
Non, pas du tout.
Bien, c'est l'équivalent de nos victoires de la musique.
Et tout ça à 24 ans.
Et voilà, tout ça à 24 ans. Clopelgag est de passage en France et en Belgique. Elle passe ce soir par le studio 108, accompagnée habituellement sur scène par un quatuor à cordes et une batterie. Elle est avec nous en solo, installée au piano, pour un titre extrait de son album « L'alchimie des monstres ».
Vous avez voilà, d'où le début. Il faut suivre quand même.
Et le titre en direct, « Les corbeaux », Clopelgag, c'est à vous.
J'ai pris ta photo, comme la nuit brûle ton ombre dans l'eau. Offre-moi l'écume de ces jours au port, où les bateaux fument ton cendre au départ. J'ai pris la pilule de sel qui fait dormir, changer ma cellule en un point de mire, d'où je vois les monstres lentement.
Merci.
Claude Pelgag, Les Corbeaux, en direct dans le studio 108 de la Maison de la Radio, extrait donc de son album L'Alchimie des Monstres, paru sous le label Chloé Pelgag et Zamora Productions. Alors, pour voir Claude Pelgag en concert, notez qu'elle sera quelque part près de chez vous, le 15 janvier à Bruxelles, à Ajaccio le 17, à Toulouse le 29, le 5 février à Lille, ou encore après une tournée dans son pays, retour en France le 15 avril 2015 au Trianon. Plus d'informations sur son site claudepelgag.com et bien évidemment sur notre site internet franceculture.fr à la page du rendez-vous.
Je suis quelqu'un de gourmand et qui aime bien goûter les choses.
Et cette fille mange un oiseau comme elle mangerait un paquet de bonbons, quoi.
Et ça, ça m'a vraiment excité pour écrire quelque chose.
Et c'est cru.
Merci à nos invités. Françoise Petrovitch, votre exposition, c'est jusqu'au 9 février au Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Je rappelle la parution d'un ouvrage aux éditions Sémiose et Thierry Magnier. Ma mère ne m'a jamais donné la main, c'est aux éditions Le Bec en l'air. Ça, c'était pour aujourd'hui et demain.
Je m'appelle Mani, j'ai 17 ans, je viens du Punjab.
On sait que vos parents veulent que vous leur envoyiez de l'argent. Mais il va falloir qu'ils attendent parce que dans notre pays, les enfants ne travaillent pas.
Eh bien, demain, cinéma social avec le réalisateur Cyprien Vial et Stéphane Cornic. La désannonce, Hippolyte ?
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Svez. À la prise de son, Jacques Azubert, Pierre Consigny et Clément Daté. Et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.